RFI vous présente Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pascal Hérault, l'opinion. Trésor Kibangula de Jeune Afrique et puis Laurent Larcher de La Croix. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. La Libye au menu du G7 de Taormine en Sicile. La Libye toujours sous la coupe de groupes armés rivaux. Le pays est aussi l'une des bases arrières du terrorisme au Sahel. Et puis la RDC où les violences armées au Kasaï retiennent enfin l'attention de l'ONU et de l'Union européenne, ainsi que Joseph Kabila qui s'est rendu dans cette région cette semaine. D'abord, cette tragique situation dans laquelle est plongée la Libye, Pascal Hérault, depuis la chute du régime Kadhafi en octobre 2011. Cette crise a donc été discutée lors du sommet du G7 en Sicile, à Taormine. Et un certain nombre de pays africains, 5 pays très exactement, la Tunisie, le Kenya, le Niger, l'Éthiopie, le Nigeria, ont été invités par le président du Conseil italien, le Premier ministre italien. Mais sa préoccupation, la préoccupation de Paolo Gentiloni, c'était surtout la crise migratoire dans laquelle la Libye joue un rôle important depuis que Kadhafi est parti avec ses départs massifs en Méditerranée vers l'Italie.
Une différence de traitement du dossier libyen. Pour les Européens, c'est la question migratoire qui importe, et on le voit bien pour les chefs d'État africains, c'est la question des conséquences du conflit libyen sur leur propre pays. Il y a eu la demande du président Issoufou lors de ce sommet, vous l'avez rappelé, d'éteindre le chaudron libyen. C'est une demande assez récurrente. Idriss Déby est intervenu ces dernières années un certain nombre de fois. Il a souligné que le service après-vente n'avait pas été assuré en Libye. Le Tunisien Essebsi intervient aussi régulièrement parce que les conséquences sont très importantes dans son pays. Vous l'avez rappelé, on est 6 ans après la chute de Kadhafi. Le pays n'a jamais été autant divisé. Maintenant, on a presque 3 gouvernements, un qui se trouve à l'est, un autre avec le Premier ministre Sarraj à Tripoli, et puis ce Congrès National Général, cet ancien Parlement aussi, qui revendique une partie du pouvoir. Et il y a eu des combats encore récemment à Tripoli. L'homme fort, l'un des hommes forts, c'est le général Haftar, à l'est du pays. Et puis, il y a aussi tous ces problèmes des communautés Touareg et Toubou, au sud du pays. Rien n'est réglé. Le pays est extrêmement divisé. Les Français ont essayé une médiation discrète, parce que c'est eux qui étaient à la manœuvre récemment. Ils ont essayé de se faire rencontrer le Premier ministre Sarraj et le général Haftar. Le général Haftar, qui a un égo assez surdimensionné, qu'on appelle ici, dans les rangs de la diplomatie française, plein de Gaulle bis.
Laurent, sur ce diagnostic de la situation libyenne.
Moi, je dirais que la Libye est un peu un jeu de Mikado. C'est-à-dire que dès que vous touchez une baguette, tout bouge et le jeu devient incontrôlable. C'est-à-dire que, à mon avis, l'une des raisons pour lesquelles les uns et les autres, je pense, sont tous conscients de la difficulté et de l'imminence du problème, mais ne savent pas exactement comment le régler. D'abord, ça tient au fond à des lectures un peu différentes du conflit malgré tout, et puis surtout, chacun a des intérêts qui sont assez contradictoires dans cette question-là.
Alors, c'est un conflit à multiples facettes, puisqu'il y a plusieurs groupes armés rivaux. On a vu, par exemple, un groupe se réclamant du gouvernement de Tripoli s'attaquer à des soldats appartenant à cette troupe du fameux général Haftar, etc. Il y a tous les jours comme ça des massacres. Et finalement, comment arriver à rassembler tous ces gens-là pour une issue éventuellement pacifique? Ça paraît complètement insurmontable, Pascal.
Il y a un problème de confiance déjà entre les acteurs. On a essayé, on a épuisé pratiquement 2 médiateurs onusiens. Il y a eu le dialogue de Skirat au Maroc qui a duré des mois. Tout le monde a été à la table de discussion. Mais il y a aussi le jeu des puissances régionales derrière. On sait bien que les Émirats et l'Égypte soutiennent le général Haftar.
Pardon. Et la Russie.
Et la Russie.
Oui, le général Haftar qui s'est rapproché de la Russie
aussi. On sait que le Qatar est en faveur des islamistes. Les Occidentaux penchent plutôt vers Haftar, mais ne le disent pas parce qu'ils ont accepté le processus de Skirat. Donc c'est un jeu très pervers qui se passe et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il y a eu des médiations parallèles, des pourparlers parallèles en Algérie, d'autres au Soudan. Et on n'arrive pas, in fine, à obtenir un consensus des acteurs qui auraient intérêt à s'entendre. Parce que la manne pétrolière a profondément diminué. On est passé de plus d'un million et quelques de barils par jour sous Kadhafi à peine 600 000 actuellement. Donc au bout d'un moment, l'argent c'est aussi le nerf de la guerre, il va venir à manquer. Peut-être que les acteurs auraient intérêt à s'entendre.
Alors si les acteurs ne s'entendent pas, est-ce qu'il faut recourir à une intervention, à une action étrangère? Elle a plus ou moins commencé donc avec l'Égypte, mais en dehors de l'Égypte, tout le monde, en tout cas au niveau de la communauté internationale, semble proscrire toute intervention armée étrangère en Libye, Trésor.
Ouais, pour l'instant, mais parce que le président nigérien même a rappelé qu'il faut une action concertée. Il faut que peut-être les pays occidentaux essaient d'appuyer les armées du Sahel, de la sous-région, pour essayer d'apporter un début de solution à ces chaos qui règnent en Libye, parce que le pays est devenu aujourd'hui... c'est place to be pour les djihadistes qui forment, recrutent et maintenant envoient des terroristes avec des connexions diverses, attaquer même les pays en Europe. On a vu l'attentat de Manchester, il y a des connexions entre le jeune qui s'est fait sauter et son père qui appartenait à un groupe islamiste combattant libyen. Donc il faut, je pense en tout cas, que le pays, même s'il n'y a pas une intervention militaire étrangère, il faut que les pays du Nord essayent de soutenir les...
On trouve les mêmes ingrédients, en gros, qu'en Libye, d'une certaine... qu'en Syrie, pardon, Laurent. C'est-à-dire un chaos avec plein de groupes armés. Sauf que pour l'instant, il n'y a pas d'interférence, en tout cas visible et importante, de forces étrangères.
Alors quand même, je voudrais, si vous voulez bien, ajouter quand même deux choses. La première tient à l'intervention de la communauté internationale. Effectivement, l'Égypte intervient depuis un certain moment, enfin bombarde, mais aussi, vous savez, quand même des forces spéciales françaises qui sont sur place et qui ne font pas que du renseignement, et aussi des forces spéciales américaines.
Britanniques.
Sans compter aussi les Italiens dont on parle.
Mais en tout cas, c'est pas en mesure de bouleverser la situation, mais changer la donne.
Ils sont déjà présents. Ils conduisent des actions militaires ciblées, et c'est déjà un début. Ensuite, je vous dirais une seconde chose, c'est que ce qu'a dit le président nigérien, au fond, c'est un peu, me semble-t-il, le porte-voix de la France. Rappelez-vous, il y a deux ans, la France, Jean-Yves Le Drian, voulait une intervention de la communauté internationale et avait fait le tour des grands acteurs de la région.
Mais il n'avait pas raison.
Alors, je ne sais pas s'il avait raison ou pas raison, mais en tout cas, c'était sa position, c'est la position de la France, et la France n'a pas pu réunir un consensus derrière lui. Donc, la deuxième étape, c'est de jouer au fond les acteurs locaux, les Africains, pour essayer de convaincre les uns et les autres de manière à ce que ça apparaisse une action africaine.
Pour intervenir, il faut aussi qu'il y ait une demande du gouvernement libyen, et pour le moment, on ne l'a jamais eu. Il y a une fierté nationale. Ils ne veulent pas. Et puis en plus, il faut que la communauté internationale, les différents pays, se mettent d'accord sur les zones où on intervient. On sait très bien que l'Égypte veut qu'on intervienne pour sécuriser sa frontière. L'Algérie ne veut absolument pas qu'on intervienne dans le Fezzan parce qu'elle a peur que si on tape dans le Fezzan, les djihadistes migrent vers l'Algérie. Donc le plus petit dénominateur commun qu'on a réussi à trouver actuellement, c'est la lutte contre le terrorisme. Donc forces spéciales françaises, anglaises, italiennes, tu l'as rappelé,
Donc cette libanisation de la Libye va se poursuivre.
Oui, non, mais j'ajouterais aussi, c'est que vous avez la France, l'Égypte et le Tchad qui est prête à intervenir. La France a une position, une base avancée qui s'appelle Madama, qui est juste en face de la frontière libyenne au Niger. Ils sont vraiment, moi j'y suis allé à plusieurs reprises, tout tourné vers la Libye et dans les starting blocks pour lancer au moins des opérations précises.
On passe à notre deuxième sujet d'Afrique Presse sur RFI et TV5 Monde. C'est ce chaos meurtrier dans lequel est plongé le Kasaï en RDC. Des milices armées s'opposent depuis des mois aux forces sécuritaires. De nombreux charniers ont été mis au jour. Le bilan des massacres va de 400 à 3000 morts. Plus de 30 000 Kasaïens, par exemple, ont fui vers l'Angola, frontalier de cette région de RDC. On compte des centaines de milliers de déplacés. Bref, voilà 7 mois, Trésor, que des partisans d'un chef traditionnel assassiné par les forces sécuritaires s'affrontent donc avec ces forces sécuritaires, mais la majorité des victimes sont des civils. Alors, cette crise a longtemps été ignorée quasiment de la communauté internationale et de Kinshasa. Voilà que cette semaine, le président Joseph Kabila se rend au Kasaï, et cette même semaine, quelques jours avant, l'Union européenne avait décrété de nouvelles sanctions contre des personnalités du régime de Kabila, et parmi les arguments avancés par l'UE, il y a cette crise du Kasaï.
En effet, le déplacement du président Kabila le 30 mai au Kasaï ne surprend pas beaucoup de Congolais sur place. Aujourd'hui, la situation est hors contrôle. Personne ne peut dire qui contrôle la situation sur place. Il y a à la fois ces anciens adeptes du chef coutumier assassiné en août, Kamuina Nsapu, qui se battent contre les forces de l'ordre, mais autour de ces chaos, il y a plusieurs jeunes désœuvrés qui ont comme ça pris des armes, qui s'attaquent à la fois au Kamuina Nsapu, à la fois aux forces de l'ordre, et c'est vraiment un véritable chaos, et on ne sait pas par où on va commencer, on va s'en sortir. C'est pourquoi le député Délice Essanga, qui est un originaire du coin, a préconisé, en tout cas proposé à la MONUSCO, de mettre en place une sorte de force spéciale, comme c'était le cas dans le Nord Kivu, pour dans essayer de résoudre la situation sécuritaire sur place, parce qu'on ne peut pas compter sur l'armée, qui est aussi accusée de commettre des exactions sur place.
Voilà, réveil tardif de Kinshasa sur cette situation du Kasaï et Laurent. Réveil tardif aussi, on peut le dire, des Nations Unies, car les Nations Unies se sont véritablement intéressées au dossier qu'après l'assassinat de deux enquêteurs qui avaient été envoyés au Kasaï. Et cet assassinat, d'ailleurs, est entouré de zones d'ombre, mettant en cause un ancien ministre, etc. Réveil tardif, donc, de la communauté internationale sur le sort du Kasaï, Laurent.
Oui, et pourtant, la crise date au moins du mois d'août 2016. L'ONU a commencé quand même à s'y intéresser, notamment en enquêtant sur les violations des droits de l'homme. Je vous rappelle que c'est quand même elle qui a mis en avant la question des fosses communes, et qui, je crois, au mois de janvier ou février, a indiqué qu'il y avait des crimes contre l'humanité, des violations des droits de l'homme immenses des deux côtés. Mais évidemment, c'est toujours pareil avec la MONUSCO au Congo. On se demande vraiment quand elle prend la mesure des choses. Il y a toujours une distance inouïe entre l'acte violent quand elle réagit. On rappelle tous que c'est quand même la mission la plus longue de l'ONU, la plus chère également. Il y a 20 000...
Son représentant spécial, le Nigérien, semble prendre acte de tout ce qui se passe à Kinshasa, mais on n'entend pas véritablement une voix déterminée.
C'est pourquoi les jeunes de la Lucha, de ces groupes, ces militants pro-démocratie qui sont basés à Goma, plaident aujourd'hui pour le départ des Maman Sidoukou, qui est le chef de la MONUSCO sur place, notamment pour incompétence dans la gestion de ce qui se passe dans les Kasaï aujourd'hui. Parce que la résolution 2348 adoptée récemment au Conseil de sécurité donne à la MONUSCO aussi ses rôles de bons offices pour essayer d'aider les Congolais à appliquer de bonne foi l'accord qui a été signé le 31 décembre.
Alors ces jours-ci, Pascal, l'Union européenne a décoché de nouvelles sanctions ciblées dans l'entourage de M. Kabila, parmi lesquelles d'ailleurs d'anciens mobutistes, curieusement, qui utilisent aujourd'hui les mêmes méthodes. L'Union européenne semble aussi se réveiller tardivement à propos du Kasaï, mais c'est une bonne chose. Est-ce que ça peut avoir un impact, ces sanctions, Pascal? Est-ce que ça peut infléchir l'attitude de M. Kabila?
Les sanctions internationales sont toujours une arme à double tranchant. Elles sont faites pour mettre la pression sur les acteurs, mais elles peuvent aussi les radicaliser un peu plus. Mais c'est un peu une Union européenne qui est démunie, qui est en panne de stratégie, de solution face à un pouvoir qui s'entête depuis le début. On savait très bien que Kabila ne voulait pas aller à ses élections, il les a pas budgétisées. Maintenant, c'est le maître du temps, il joue la montre. Il a commencé par faire des concertations nationales. Après, il a appelé à la rescousse l'Union africaine pour une médiation. Après, ça a été l'Église catholique qui est rentrée dans le jeu. Je doute que ces sanctions, dans la situation dans laquelle on est arrivé, arrivent à quelque chose. Parce que ces personnes-là, c'est des sanctions qui vont être limitées à l'Union européenne. Et je pense que ces responsables-là
les États-Unis
ont une partie de leur argent. Ouais. Parce que c'est un gel des avoirs et interdiction de voyager. Ça ne les empêchera pas d'aller dans la plupart des pays du monde. Et je pense que leur argent n'est pas en Europe.
Alors, cette crise du Kasaï pourrait, Laurent, si les élections se tiennent, évidemment changer la donne, puisque les responsables de la CENI n'ont pas exclu finalement de mettre entre parenthèses cette éventuelle élection au Kasaï si cette crise n'était pas réglée. Alors d'où des soupçons aussi de l'instrumentalisation de cette crise épouvantable du Kassai à des fins politiques par Kinshasa.
Bah, c'est ce qu'on dit effectivement. En tout cas, je voudrais aussi dire qu'on parle beaucoup du Kassai, mais il y a d'autres zones, d'autres régions, d'autres provinces qui, au Congo aujourd'hui, tombent aussi dans la violence. C'est-à-dire qu'on assiste au fond à un effritement de ce pays. Alors ce pays a toujours été fragile, bien entendu, mais un peu un retour, moi ça me fait un peu penser au Congo des premières années de l'indépendance. D'ailleurs, le Kassai, déjà à l'époque, au début des années 60, avait aussi manifesté une volonté d'autonomie. En tout cas, il y avait un bras de fer entre Kinshasa et le Kassai déjà à l'époque. Il y a toute une tradition là entre ces deux zones géographiques d'affrontement, mais on voit évidemment l'est du Congo n'est absolument pas résolu, mais aussi d'autres provinces qui sont aujourd'hui touchées, on en parle assez peu, mais par des mouvements de rébellion. Rappelez-vous encore ce qui vient de se passer il y a deux semaines à Kinshasa avec la prison de Makala, où là on a eu, en tout cas selon notre comptabilité, plus de 3800 prisonniers qui sont échappés, dont donc là aussi des rebelles, enfin. Donc ça contribue à une insécurité totale, à un chaos, à un pays qui est en train de totalement éclater, comme si, au fond, le régime en place jouait la carte du pire pour se maintenir.
Alors, est-ce qu'il faut craindre, dans ces conditions, Trésor, un embrasement au Katanga, le Katanga dont le leader régional est interdit quasiment de séjour de facto dans le pays, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle, mais qui ne peut pas rentrer en RDC?
C'est prévisible, hein. La tension continue à monter. Au Katanga, il y a un ancien chef milicien qui n'avait pas encore purgé sa peine, Gédéon Kyungu, qui fait partie aussi de personnes sanctionnées par l'Union européenne récemment, a été sorti des prisons par les pouvoirs et il s'y retrouve aujourd'hui dans une maison à Lubumbashi. Donc, on soupçonne même ces anciens chefs miliciens d'avoir envoyé des troupes ou des combattants supplétifs pour aider les forces de l'ordre au Kassai. Donc, la tendance du pouvoir est
justement de générer un chaos.
D'installer ces chaos qui va aider Kabila à continuer à rester
au pouvoir. À se maintenir au pouvoir. Pascal.
Tant qu'il y aura le chaos, Kabila pourra invoquer des raisons sécuritaires pour ne pas organiser les élections. Donc il pourra perpétuer son règne qui s'est achevé en décembre aussi longtemps qu'il le souhaite. Ce qui est consternant, c'est les réponses qui sont apportées. Un premier constat, on est parti d'une succession coutumière. Et là, ça montre quand les politiques se mêlent des successions coutumières sur le terrain,
ça dégénère.
Il y a toujours des problèmes. Et la réponse qui est en train d'être donnée ou que les acteurs appellent à une réponse sécuritaire, ne résoudre rien. C'est aussi un problème économique, c'est un problème social d'une jeunesse ou d'une région qui n'a pas été aidée par l'État ou l'État est absent. Et tant que l'État se réinvestira pas, tant qu'il n'y aura pas un dialogue avec les communautés, tant qu'on ne réglera pas les problèmes des populations, on ne trouvera pas de solution. Et il y aura différents foyers qui se réveilleront dans le pays.
Alors, autrement dit, Laurent, tout le monde s'intéresse au Kassai, mais finalement, tout le monde est impuissant à régler cette crise.
Oui, maintenant, il y a quand même des politiques qui préparent leur retour. Je pense quand même à Moïse Katumbi, effectivement. Il est en train d'organiser une plateforme autour de lui pas inintéressante, en attirant quand même des figures un peu, je dirais, de l'opposition ou des anciens proches de Joseph Kabila. Donc, il pourrait apparaître de plus en plus comme un recours possible, installé ou soutenu par la communauté internationale, sachant qu'il a déjà des soutiens importants, notamment du côté de Washington.
Et pour parler de Moïse, justement, il va porter plainte, je crois, aujourd'hui, déposer une plainte devant le Conseil des droits de l'homme à Genève contre l'État congolais qui l'a condamné sur une affaire assez...
Sur des affaires judiciaires douteuses, alors qu'il a été d'ailleurs innocenté par les évêques.
Les évêques ont dit que le jugement était... En tout cas, le procès était un procès politique.
Apparemment, à Kinshasa,
même la juge, je crois que c'est sur TV5 Monde.
La juge qu'il avait condamné a dit qu'il était...
Qu'elle a fait ça sous pression.
Mais alors, le risque, Pascal, c'est un peu de voir... Monsieur Kabila se comportait un peu comme Nkurunziza, c'est-à-dire un bras d'honneur à toute mesure que la communauté internationale pourrait prendre pour l'inciter à partir.
C'est déjà ce qu'il fait depuis très longtemps. Et on parle du retour de Moïse Katumbi, mais encore faut-il que le pouvoir accepte qu'il rentre. Pour le moment, il n'y a aucun geste d'ouverture en ce sens.
Voilà, en tout cas, avant de nous quitter, toutes les équipes d'Afrique Presse s'associent aux nombreux hommages à la mémoire de Jean-Karim Fall, le journaliste franco-sénégalais qui s'est éteint brutalement il y a a une semaine à Taormine, en Sicile. Il couvrait le sommet du G7 pour France 24. Il avait rejoint cette chaîne publique après avoir passé plus de 20 ans à RFI. Ses obsèques ont lieu ce samedi matin à Paris. Merci Pascal Hérault, Trésor Kibangula et Laurent Larcher, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.